On est en train de continuer l'étude sur nos diverses positions en Jésus. Puis, pour me répéter un petit peu, il faut réaliser, parce que moi, je pense qu'il faut que ça soit écrit dans notre esprit. Quand tu es venu à Jésus, puis tu as demandé pardon pour tes péchés, il t'a pardonné, puis là, il te donne le Saint-Esprit. Ça s'appelle naître de nouveau. À partir de ce moment-là, tu es une nouvelle création. Une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça dépasse l'entendement. Tu peux pas savoir d'avance toutes les ouvertures que ça t'a donné le fait que tu sois né de nouveau. La seule affaire, tu sais quand tu acceptes Jésus, tu sais que tu es pécheur, puis tu sais qu'à cause que Jésus il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis si tu l'acceptes comme ton sauveur, à partir de ce moment-là, tu es pardonné. Ça, tu peux le savoir. Mais tout le reste des promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu veut te donner, on ne le sait pas, on l'apprend au fur et à mesure. C'est Dieu qui le révèle. Puis ça, c'est des richesses qu'il nous donne. Il nous enrichit de sa connaissance, de sa révélation. On a besoin de savoir ces choses-là parce que ça fait un effet dans nos vies quand on apprend les choses que Dieu nous donne. Ça nous fortifie. La parole de Dieu bâtit en nous une forteresse. Tu deviens équipé. Tu sais qui tu es, puis tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu suis plus le reste du monde, ce que le monde peut dire avec les différentes pensées, les différentes doctrines. S'il y a des vents qui poussent sur un bord, là, le monde pense à une idée. Puis il y en a des fois, le vent vente sur l'autre bord, les idées changent. Mais la Bible, elle demeure éternellement. Quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, tu te trompes pas. Puis tu vas être un arbre qui va porter ses fruits en sa saison, puis le feuillage ne se flétrira point. Puis tout ce que tu vas faire, tu vas le réussir. Parce que c'est Dieu qui va être la source de ta vie. Puis Jésus nous appelle à bâtir notre foi sur sa parole, puis à être des personnes qui le suivent. C'est cela. Un point aujourd'hui qu'on regarde de nouvelle position qu'on est en Jésus, c'est qu'on est devenu des ambassadeurs. Puis être un ambassadeur, c'est pas n'importe quoi. Être un ambassadeur, comme pour les pays, là, l'ambassadeur, c'est un des plus hauts niveaux que tu peux atteindre en dessous du gouvernement. Puis après ça, tu es un représentant du gouvernement dans d'autres pays. Tu es le plus haut niveau que tu peux avoir en comme dans les titres, puis les autorités, puis les postes que tu peux avoir dans la société. Mais un ambassadeur, c'est un des plus hauts niveaux. Tu n'es pas le gouvernement, mais tu représentes le gouvernement, puis tu parles dans le nom de ce gouvernement-là. Puis là, tu es dans terre étrangère, puis tu as une mission face à ton gouvernement. Tu es envoyé dans une terre étrangère pour une mission. Puis on va réaliser qu'on est des ambassadeurs. Je vais vous poser une question. Savez-vous qu'il existe un royaume extraterrestre? Un royaume qui n'est pas de ce monde. Quand on dit extraterrestre, c'est que c'est pas de cette terre. Il y a un royaume qui existe, puis il n'est pas de ce monde. Puis c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Puis ça, c'est important de le savoir, parce que puis même c'est important d'apprendre des choses là-dessus, puis même c'est encore bien plus important d'y entrer, d'être sûr qu'on est un de ses habitants. Savez-vous qu'il y a présentement sur cette terre des représentants du royaume du ciel? Oui, c'est nous autres. Puis on va le voir dans les versets qu'on va voir, mais on va comprendre comment que ça se passe tout ça. Jésus a dit, dans Jean 18, le verset 36, Jésus dit « Mon royaume ». Jésus parlait dans le nom que Jésus est un roi. Si vous ne saviez pas, Jésus est un roi, mais son royaume, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. C'est un royaume qui vient du ciel, où ce que Dieu habite présentement, où ce qu'il y a des milliards d'anges qui sont là. Il y a des séraphins, des chérubins, des archanges, des anges. Il y a des puissances là, qu'on ne peut pas s'imaginer encore parce qu'avec nos yeux humains, on est limité. Puis la grosseur de notre petit cerveau qu'on a, on a de la misère à s'imaginer comment que ça peut être grandiose, ce royaume-là, le royaume de Dieu. Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répond Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Première chose qu'on doit savoir, Jésus est roi sur son royaume. Puis son royaume n'est pas d'ici-bas. C'est pas un royaume qu'on va voir avec nos yeux, que tu peux prendre l'avion, puis aller te promener, puis aller visiter. Tu le verras pas comme cela. Mais il est au milieu du monde, parce qu'il y a des représentants, il y a des ambassadeurs de ce royaume-là qui sont ici, présentement dans ce monde, en train de faire une mission, parce qu'ils représentent le royaume des cieux. Il dit, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Jésus a des milliards de serviteurs qui sont pas d'ici-bas, qui sont du royaume invisible. Puis de ces anges-là sont extrêmement puissants. Ce royaume-là, c'est le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Puis ça a une grande puissance. Puis un jour, je vous annonce que ce royaume-là va réapparaître, puis il va descendre du ciel, puis un jour, les gens vont le voir. Jésus, le roi, avec toute son armée qui va être sur des nuages. Puis les gens de la planète Terre ont besoin d'être prêts pour le rencontrer, parce que ça va être laid. Ça va être beau pour ceux qui l'attendent, puis ça va être laid pour ceux qui ne l'attendent pas, qui vont être pris à l'improviste. Le ciel est un royaume inconnu. Ce royaume-là, le royaume de Dieu, c'est un royaume inconnu. Il n'y a pas grand monde qui a des vraies informations. Il dit, Jésus, lui, a été envoyé de ce royaume-là pour venir annoncer l'existence du royaume des cieux. Les gens en avaient entendu parler, il y avait des petites idées, mais il y avait peu de prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient, qui parlaient du royaume. Il y avait peu d'informations. Mais Jésus est venu pour parler du royaume. Jean-Baptiste, le premier qui préparait le chemin du Seigneur, lui, il préparait l'avenue de celui qui nous prêcherait le royaume de Dieu. Jean-Baptiste, il dit, « Repentez-vous, le royaume des cieux. » est proche. Il nous annonce l'avenue de celui qui était pour venir nous expliquer ce qui se passe l'autre bord. C'est Jésus. Dans Jean 18, 37, Pilate il dit à Jésus, « Tu es roi. » Jésus lui dit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est venu pour rendre témoignage qu'il y avait quelque chose après la mort, puis il en a donné une preuve, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il s'est montré à ses disciples. Il a prouvé qu'il y en avait une résurrection. Puis quand Jésus était avec ses disciples, il leur a dit, « Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est là qu'on s'en va, puis on a hâte d'y aller. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur le ciel. Il y a des vérités que les disciples prêchent, ceux qui prennent les versets de la Bible, mais il y a des religions qui rendent les choses comme ils mettent beaucoup de mensonges. Puis le monde, en général, tu les questionnes sur le ciel, puis le paradis. Tout le monde pense qu'il s'en va au paradis. Tout le monde pense qu'il s'en va au ciel. Tout le monde, ben à part ceux qui veulent pas y aller, il y en a qui veulent aller en enfer. Ils choisissent d'y aller, mais là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils comprennent pas. Ils ont aucune idée de ce qu'ils disent. Ils disent ça de même, là, sans comprendre, parce qu'ils verraient ça 10 secondes. Ils voudraient pas y aller. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur le ciel, mais tout le Nouveau Testament nous parle du ciel, du royaume de Dieu, du royaume des cieux ou du paradis. C'est l'habitation de Dieu, c'est la ville de Dieu, c'est un endroit de béatitude où ce que c'est le bonheur, la paix, la joie, puis la vie éternelle. Mais tout ça, c'est à Dieu. Ça ne fait pas partie de ce monde. Ça ne fait pas partie de rien de ce monde qui fait partie de cela. Tout est à Dieu. Tout le monde pense que automatiquement on s'en va au ciel en mourant. C'est la plus pimenterie qu'ils ont jamais pu entendre. Puis le monde vit avec assurance dans un mensonge, puis sans se préoccuper de se préparer pour rencontrer Dieu. Ils pensent tous qu'ils s'en vont au ciel, mais le ciel appartient à Dieu, il appartient pas aux humains. Le royaume de Dieu n'est pas d'ici-bas. Les gens d'ici-bas ne font pas partie du royaume de Dieu. Puis on le voit dans d'autres versets, le monde entier est sous la puissance du malin. Présentement, l'ensemble de l'humanité sont dominés par les ténèbres, pas par la lumière. Pour parvenir à la lumière, faut que tu changes de camp. Faut que tu décides, faut que tu prennes une décision face aux choses que tu vas apprendre en écoutant les messages de la parole de Dieu. Là, tu prends une décision, puis tu choisis de sortir des griffes de Satan pour suivre Jésus. Faut que tu le réalises avant de mourir. Savez-vous que Jésus nous annonce que les portes du royaume céleste sont ouvertes? Sont ouvertes, sont tout grandes ouvertes. Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui. Mais il appelle le monde, puis envoie des ambassadeurs pour aller leur dire, « Venez, mes noces sont prêtes. Venez au banquet des noces de l'agneau. » Il invite tout le monde sur la planète. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaissance de la vérité. Dieu veut qu'on soit sauvés. Il appelle. Puis il dit, « Viens, viens. » Prenez, buvez, mangez, tout est là, c'est gratuit pour tout le monde, parce que Jésus a tout payé pour qu'on puisse y accéder. Puis c'est ce que Jean-Baptiste puis Jésus prêchait quand Jésus était sur la terre. Il commençait à prêcher, à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux était tellement proche d'eux autres que Jésus était le représentant du royaume des cieux, puis il était proche des gens. Puis les gens l'ont vu, ils n'ont pas vu. Ils ont vu, mais ils n'ont pas compris. C'est pas tout le monde qui comprenait ce que Jésus est en train de dire et ce que Jésus est en train de faire. Mais il était tellement proche, le royaume, qu'il y a des gens qui ont été touchés par le royaume des cieux. Jésus a mis sa main sur une personne puis il l'a guéri. C'est le royaume des cieux qui marchait deux pieds sur la terre. C'était en Jésus. Puis là, il dit aux gens, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Croyez en la bonne nouvelle. Croyez en moi. » Il dit, « Je suis venu pour vous présenter ce royaume-là. » Jésus a aussi dit dans ses enseignements, quand il parlait aux gens qui l'entouraient, « Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer au ciel. » Ça, c'est autant que Jésus a amené la bonne nouvelle, mais dans la bonne nouvelle, il y a des mauvaises nouvelles. Quand tu fais face à la vérité, c'est pas toujours comique. Faut premièrement tu réalises la partie la moins drôle avant de pouvoir recevoir le bon côté de la bonne nouvelle. Jésus, dans Jean 8, 21 à 24, Jésus leur dit encore, il parlait à des gens religieux en plus, des juifs religieux qui suivaient la loi, puis étaient bien sévères avec eux-mêmes, puis pratiquaient le rituel, puis étaient durs avec tout le monde, puis... Tu sais, c'est dans le genre de ceux qui n'en laissent pas passer quand ils voient quelque chose. Puis il dit, « Je m'en vais. » Jésus dit ça, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Puis vous ne pouvez venir où ce que je m'en vais. » Jésus, lui, là, on peut être sûr, Jésus s'en retourne au ciel quand il va mourir. Parce que Jésus, c'est le seul qui a jamais fait aucun péché. Donc, la mort ne pouvait pas le retenir. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, puis après ça, il parlait avec ses disciples pendant 40 jours, il est monté au ciel, direct, dans la présence du Dieu trois fois saint. Puis, il a dit aux Juifs qui étaient là, « Je m'en vais, vous me chercherez, vous allez mourir dans vos péchés, et vous ne pourrez venir où ce que je m'en vais. » Ces gens-là, Jésus savait qu'il ne se repentirait pas, puis qu'ils mourraient dans leur péché. Et leur péché les empêcherait d'entrer dans ce ciel-là. Il faut le savoir, que le péché empêche les gens d'entrer au ciel. Si une personne ne rentre pas au ciel, c'est pas parce que Dieu voulait pas qu'elle rentre. Non. C'est que Dieu a établi qu'aucun pécheur rentre dans le royaume. Il faut absolument que tu sois pardonné de tes péchés pour pouvoir rentrer. Puis il y a un seul moyen que Dieu a donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus qui sauve. Amen! Gloire à Dieu! Là, les Juifs, ils se disent, au verset 22, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous pouvez pas venir où ce que je vais? » Il leur dit, Jésus qui dit ça, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Jésus il a quitté le royaume céleste pour venir dans ce monde, mais il n'était pas parmi ce monde. Puis il parle aux gens de ce monde, il lui dit, « Vous êtes mieux de croire en ce que je vous dis. » Parce qu'il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça va les empêcher d'entrer au ciel. Tous ces gens-là pensaient qu'ils rentraient au ciel. Tous ces gens-là, dans ce temps-là, étaient religieux, pensaient qu'ils s'en allaient dans la présence de Dieu. Pensez-vous qu'ils n'ont pas mangé une claque quand ils ont entendu ça de Jésus? Là, ils devaient s'arracher les cheveux de sa tête. Jésus lui dit la vérité. Vous devez croire en moi, en Jésus, si vous voulez être sauvés. Le ciel, le paradis, la vie éternelle appartiennent à Dieu. Pour l'obtenir, il faut le demander à Dieu. Dans Romains 10, 12, ça nous dit, jusqu'au verset 13, 10 à 13, 12 à 13, il n'y a aucune différence entre un juif puis un grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci Seigneur, le salut est dans le nom de Jésus. Lorsque quelqu'un se repent puis met sa foi en Jésus, la Bible dit qu'il naît de nouveau. C'est ça que la Bible elle enseigne. Ça y permet d'entrer, ça y permet de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Sans naître de nouveau, on peut pas rentrer. Peu importe comment tu t'appelles, peu importe ta race, peu importe si t'es un bon gars, peu importe ta langue, peu importe ta religion, il n'y a rien de tout ça qui fait une différence. La seule affaire qui fait une différence, t'es-tu né de nouveau. Faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume. C'est ce que Jésus dit dans Jean 3, de 3 à 5. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu veux le voir, ce royaume-là, là. Mais faut que tu naisses de nouveau. Là, Nicodème, il a dit, comment que ça peut se faire? Quand un homme est vieux, peut-il le rentrer dans sa mère puis ressortir? Là, il pensait que ça allait renaître comme quand il est venu au monde. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Faut que c'est une naissance spirituelle. Naître d'eau, c'est quand tu sors du ventre de ta mère, puis naître de l'esprit, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est ça, la nouvelle naissance. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu naisses de l'esprit. Faut que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est ça qui va faire que tu vas le voir puis tu vas y entrer. Seulement ceux qui sont sauvés font dorénavant partie du royaume des cieux. Les gens de ce monde peuvent pas rentrer à moins qu'ils naissent de nouveau. Après ça, tu es sauvé. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, puis la colère de Dieu demeure sur lui. Tu veux rentrer au ciel? Mets ta foi en Jésus. Faut pas niaiser avec ça. Faut pas attendre. En tant que né de nouveau, une fois que tu es né de nouveau, nous sommes maintenant devenus des représentants du royaume de Dieu. C'est une nouvelle position en Jésus. Parce que tu es né de nouveau, tu viens d'obtenir un paquet de statuts. On en a vu plein à date dans différentes prêches. Puis là, aujourd'hui, on va voir un statut de ceux qui sont nés de nouveau dans 2 Corinthiens 5, 17. Dieu nous a tous donné un ministère, un nouveau ministère, un nouveau statut qui fait qu'on a un nouveau ministère. 2 Corinthiens 5, 17 et 18, ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle créature. » Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le fait de naître de nouveau. Lisons aussi l'autre verset. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et, écoutez bien celle-là, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que cela? Un ministère de réconciliation. Un ministère, tout le monde s'en charge des ministères. Maintenant que tu es né de nouveau, ça le dit bien, puisqu'on est une nouvelle créature, tu as maintenant le ministère de la réconciliation. Tu es au service de Dieu pour réconcilier le monde avec Dieu. Tu es un représentant de Dieu, un ambassadeur de Dieu, un envoyé de Dieu. Pourquoi qu'on est ambassadeur? Parce qu'on ne fait pas partie de cette planète, on va le voir dans un autre verset. On ne fait plus partie de ce monde. Jésus nous a choisis, puis là maintenant on n'est plus de ce monde, on fait partie du monde d'en haut. Une fois que tu es né de nouveau, tu fais partie du royaume des cieux. Là, t'es encore les deux pieds sur la terre, comme Jésus avait deux pieds sur la terre, mais il pouvait affirmer, je suis pas de ce monde. Puis là, on est des représentants, des ambassadeurs dans une terre étrangère pour nous. Nous devons maintenant chercher à réconcilier les gens avec Dieu. C'est notre ministère. On vient de voir comment c'est important qu'une personne doit être née de nouveau, doit être sauvée. Il faut qu'elle aille à Jésus pour être sauvée. Mais les gens l'ignorent. Les gens ne savent pas comment faire pour être sauvés. Ils suivent des religions, ils prient des statues, ils prient des images, ils prient toutes sortes d'affaires. Puis ils savent pas que c'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. C'est pas Saint-Pierre, c'est pas Saint-Jacques, c'est pas Saint-Pias, ni Saint-Saëns. Dans 2 Corinthiens 5, 19 et 20, ça nous dit, « Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Faux, l'avez-vous compris? Vous avez en vous la parole de la réconciliation. Vous avez les mots qu'il faut pour dire aux autres d'être réconciliés avec Dieu. Notre mission en tant qu'ambassadeur, c'est d'amener les gens à se réconcilier avec Dieu. Parce que tout le monde le savent pas, mais tout le monde sont séparés d'avec Dieu. Puis un gros mur entre les deux, puis c'est le péché qui sépare Dieu d'avec les hommes. Puis il faut que la dette des péchés soit réglée. C'est ce que Jésus est venu faire en mourant sur la croix. Son sang a été l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Puis il faut que la personne passe par Jésus pour recevoir cette purification-là de ses péchés, pour que la communion avec Dieu redevienne possible. Pour que l'Esprit de Dieu puisse rentrer dans la personne, ce qui permet à la personne de naître de nouveau. Nous, je continue dans 2 Corinthiens 5, 19 et 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. On a les paroles de réconciliation, on a des paroles pour réconcilier le monde avec Dieu, puis on fait la fonction d'ambassadeur. On est des représentants. Je l'ai dit tantôt, un ambassadeur, c'est un très haut titre honorifique. Tu es un représentant de ton roi et de ton royaume. On est envoyé sur cette terre, puis on annonce maintenant le royaume de Dieu dont on fait partie. Il dit, nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ, notre roi, comme si Dieu exhortait par nous. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Quand que je marche puis je parle à quelqu'un, c'est comme si Dieu est en moi qui est en train de l'encourager, cette personne-là, à se réconcilier avec lui. On est les outils dans la main de Dieu pour amener des gens à Dieu. C'est extraordinaire, notre rôle. C'est pas n'importe quoi. Comme si Dieu exhortait par nous. Puis là, la phrase qui dit, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Imagine-toi, tu prends quelqu'un au collab, tu lui dis, « Sois réconcilié avec Dieu, on t'en supplie. » Mais quand tu supplies, tu brosses pas fort. Mais il faut quand même comprendre notre rôle. Notre rôle, c'est de dire au monde, « Sois réconcilié avec Dieu, c'est important. T'as fait des péchés, j'en ai fait, on a tout fait. Faut que ça soit réglé, ça, avant que tu meures. Si tu meurs dans tes péchés, tu pourras pas rentrer dans le ciel. Faut que tes péchés te soient pardonnés maintenant. » Là, après ça, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, tu vas devenir une nouvelle créature, tu vas être un habitant du ciel. Quand tu es déjà habitant du ciel, tu meurs, tu t'en vas au ciel, parce que le ciel est à Dieu et à ses habitants. Mais c'est pas à cause qu'on est venu au monde ici qu'on est automatiquement une personne qui s'en va au ciel. Parce que le ciel appartient pas aux personnes de ce monde, le ciel appartient à Dieu et à ceux qui marchent avec Dieu, qui sont réconciliés avec Dieu. Toutes les autres qui sont pas réconciliés, la colère de Dieu est sur eux. C'est pas des farces. Même si Dieu les aime, même si Dieu veut qu'ils soient sauvés, parce que les gens font pas d'efforts pour retourner à Dieu, Dieu y est pas de bonne humeur. Faut pas penser que Dieu il accepte tout ce qu'on fait comme si rien n'était, puis il va nous applaudir parce qu'on vit dans la rébellion, puis qu'on est dans le péché, puis qu'on rejette son message, puis qu'on n'a aucun intérêt pour lui. Non, Dieu y attend, il nous supplie, il envoie de ses disciples, ses ambassadeurs, puis ils se font ridiculiser, ils se font frapper dessus, ils se font cracher dans la face, ils se font assassiner. Ça rend pas Dieu de bonne humeur, croyez-moi. On a notre rôle, on est encore sur la terre, puis frères et sœurs, il faut que ça soit ancré dans nos pensées, le rôle d'ambassadeur qu'on avait. Partout ce qu'on passe, on est des représentants de Dieu, puis on doit être des communicateurs de ce que Dieu nous dit, lui dit, soyez réconciliés avec Dieu. Savez-vous que sans le travail des représentants, les gens ne pourront être sauvés? Dieu il a bâti le système comme ça. Il sert d'un de nous pour parler. Il sert d'un autre pour d'arroser. Puis c'est Dieu qui fait croître. Mais Dieu a choisi que les gens croient par l'entremise de d'autres personnes qui croient. Dieu n'aurait pas à apparaître là, sur la terre puis à tout le monde puis lui dire « Je suis Jésus puis je suis mort pour vous autres. » Puis à chaque génération, il réapparaît dans chaque ville pour se montrer. Vous avez juste à croire en moi. Il aurait pu faire ça comme plan. Puis là, tout le monde aurait pu croire en Jésus tout de suite sans l'intervention de personne. Mais il n'a pas voulu que ça se passe de même. Pourquoi? Parce qu'il veut que le salut soit donné par la foi. Puis par la foi et non par la vue. Fait qu'il faut que les gens croient ce que l'autre dit. Fait que les premiers 11 apôtres ont vu Jésus ressuscité, ils ont dit ça aux autres, d'autres l'ont dit à d'autres, l'autre l'ont dit à d'autres, 2000 ans plus tard, j'ai pas vu Jésus ressuscité, mais je le sais parce que j'ai son livre dans les mains. J'ai lu le livre des disciples, puis des disciples, ils ont dit que Jésus est ressuscité, tout ça, puis que je peux être pardonné, je l'ai cru. Je marche par la foi. Sans voir. Dieu, il veut qu'aujourd'hui, on réalise que c'est important qu'on aille porter le message aux gens qui nous entourent. Dans Romains 10, 14 et 15, ça nous dit, « Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment y en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut réaliser, frères et sœurs, que c'est important d'envoyer des prédicateurs. Priez le maître de la moisson qui envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, puis il y en a peu d'ouvriers. Il y a des milliards de personnes qui ignorent le plan de Dieu pour être sauvées. Tout le monde pense qu'ils s'en vont au ciel direct, tout seul. Puis ils savent pas qu'ils sont dans leur péché, puis que les péchés vont les empêcher d'entrer. Ils savent pas que Jésus est à la seule porte. Jésus l'a dit, je suis la porte, puis Jésus est le chemin. Tu n'as pas le choix de passer par lui si tu veux être sauvé. Il n'y a personne qui va arriver au ciel, il va dire, que je fais ici, moi, comment j'ai pu me rentrer ici? Tu pourras pas dire ça. Parce qu'il fallait que tu saves que Jésus c'est à la porte, puis que tu t'es repenti pour accepter Jésus, pour le suivre. Tu peux pas arriver là par hasard. Tu l'as su, tu l'as compris, tu t'es repenti, tu l'as reçu, ta vie a commencé à changer, puis là, tu meurs, tu te retrouves avec lui. Puis c'est le même pour tout le monde. Puis c'est important que le monde en entende parler, mais comment est-ce qu'ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est notre mission. On a reçu le ministère de la réconciliation. Puis Dieu veut qu'on parte, puis qu'on dise au monde, soyez réconciliés avec Dieu, nous vous en supplions. Nous sommes les porteurs du message qui ouvre la porte du ciel aux gens. C'est-tu assez important? Il y a même pas, moi, je connais même pas un mot dans mon petit dictionnaire personnel là, qui peut dire comment est-ce que c'est important, ce message-là. Rien que le fait que je l'ai reçu, puis je le comprends, puis que je suis content d'être sauvé, c'est déjà grandiose, puis j'ai l'assurance que je m'en vais à cause de Jésus. Mais ma responsabilité pour le partager aux autres, jusqu'à où je suis prêt à m'engager pour y aller, porter le message, pour en parler, se responsabiliser face aux milliards de personnes qui nous entourent, puis d'essayer d'utiliser tous les moyens possibles pour leur faire connaître le message. L'apôtre, il dit, dans la parole, l'apôtre Paul, il dit de prier pour avoir de l'efficacité. Parce que l'efficacité vient de ce que le Saint-Esprit nous remplit. Puis il nous donne les paroles, puis il se révèle, parce que c'est pas juste de la prédication, c'est aussi une manifestation de la puissance de Dieu. Les gens vivent des choses avec Dieu, puis sont conscients qu'ils ont vécu des choses avec Dieu. Leur vie est changée, la puissance de Dieu en action, c'est important. Priez pour que l'efficacité du message prêché par nous, en parlant des apôtres, mais que c'est pour nous aujourd'hui, il faut prier pour qu'il soit efficace ce message-là, pour que nous l'annoncions avec assurance. Dans Éphésiens 6, 19, c'est Paul qui dit ça. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur. » Dans les chaînes, parce qu'à ce moment-là, il est en prison. « Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Il n'est plus là, Paul. Pour qui on doit enligner nos prières, vous pensez? C'est vers ceux qui sortent dehors pour aller porter le message. Qui puissent porter le message avec assurance. Faut prier qu'on soit, les portes s'ouvrent. Faut prier pour que le Saint-Esprit utilise les paroles. Il nous donne des paroles, puis il utilise les paroles, qu'il utilise nos mains pour rejoindre les gens, pour que les gens croient. Ben, c'est ça qui est le but. C'est pas juste de l'annoncer. L'annonce, on peut le crier qu'un haut-parleur dans la rue, mais c'est faut que les gens le reçoivent. C'est bien beau que tu es un vendeur d'assurance, tu fais du porte-à-porte, tu présentes tes assurances, mais si tu n'es pas capable de clore la vente, tu n'as aucune vente. Tu as beau avoir parlé à 25 personnes par jour pendant 10 ans, puis il n'y a jamais eu aucune vente, si tu n'es pas capable de clore une vente, ben à quoi ça a donné? Rien, tu as zéro salaire. Pour que ça soit efficace, quand tu es un prédicateur, il faut qu'il y ait du monde qui accepte Jésus comme leur sauveur. Puis il faut qu'ils le reçoivent, qu'ils reçoivent l'Esprit, qu'ils soient sauvés. Puis qu'à leur tour, les gens grandissent dans la foi, puis qu'ils sont prêts à aller travailler eux aussi. Là, la puissance de Dieu est en action. Là, c'est efficace. Mais c'est ça qu'on fait encore aujourd'hui. On prêche la parole, il faut la prêcher avec assurance, puis il faut sortir pour aller en chercher d'autres. Faire des disciples, c'est une chose, puis c'est correct. Puis après ça, c'est d'aller chercher, aller parmi toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En tant qu'ambassadeur, j'achève, en tant qu'ambassadeur, nous devons prendre notre rôle à cœur et vivre de façon à ne pas déshonorer notre roi et notre pays. Quand tu es un ambassadeur, il y a un mode de vie qui est important parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu représentes Jésus, puis tu représentes le royaume des cieux. C'est important qu'on marche droit, qu'on soit honnête, qu'on soit un bon témoignage, que les gens peuvent avoir confiance, qu'on ne soit pas un tout croche, un voleur, un menteur, un hypocrite, puis un gars qui profite de tout le monde. Voyez-vous l'idée? Dans Philippiens 2, 15, 16, ça nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, c'est assez fort, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde et portant la parole de vie. » C'est ça un mode de vie d'un ambassadeur. Quelqu'un qui porte le message dans le monde en vivant une vie irréprochable, pure, des enfants de Dieu, faut réaliser notre rôle, frères et sœurs, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue. On vit plus selon le monde, on vit pas selon notre chair avec ses passions, ses désirs corrompus. On vit plus selon les enseignements, les dires, les idées du diable. On vit selon la parole de Dieu. Un dernier verset pour ceux qui entendent ce message puis qui se sentent interpellés. C'est sûr que ça touche. Que ce soit des gens ici, que ce soit sur Internet, il y a des gens qui sont touchés par le message. Mais il faut répondre à l'appel de Dieu. Que ce soit l'appel d'accepter Jésus comme ton sauveur, ou que ce soit l'appel d'y aller évangéliser, d'y aller être un ambassadeur, puis d'aller porter la bonne nouvelle, il faut répondre à l'appel de Dieu. L'appel, si on ressent un petit quelque chose qui nous travaille quand on écoute, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Dieu travaille dans nos cœurs, puis il nous dit dans notre cœur, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Puis je dois répondre. Accepte Jésus. Réponds. Dans Hébreux 3, 7 et 8, ça dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Faut répondre à l'appel. Faut dire au Seigneur, Seigneur, je le sais que je suis pécheur. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'est pas pécheur? On l'est tous. Si on m'aurait dit, oui, si quelqu'un lève la main et dit, pense qu'il n'est pas pécheur, oui. On a tous fait des péchés. Il ne faut pas se cacher à cause de nos péchés. Dieu les a tous vus, nos péchés. Il a même vu les péchés qu'on n'a même pas vus nous-mêmes. Il les a tous vus. Il le sait parfaitement. Puis Dieu ne souffre pas d'Alzheimer. Il s'en rappelle. La seule manière qu'il va décider de les oublier, c'est si tu acceptes son fils comme sauveur. Là, ils vont être pardonnés. Il va te remettre ta dette parce qu'elle a été payée par quelqu'un d'autre, ta dette. Puis c'est quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Quand Jésus était sur la croix, c'est à mes péchés qui étaient sur lui. C'est à vos péchés qui étaient sur lui. Puis là, il a accepté de mourir volontairement. Puis c'était sa mission, de mourir pour les péchés des autres. En expirant, il expiait les péchés de l'humanité tout entière. Fait qu'aujourd'hui, peu importe comment tu t'appelles, peu importe qui tu es un pécheur, parfait, comme moi aussi j'étais un pécheur. Je réalise que j'étais un pécheur, mais je réalise aussi que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés. Puis là, on dit au Seigneur, « Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Je crois que tu es mort pour moi. Je le prends, ton sacrifice. Je crois que tu étais l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever les péchés du monde. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Puis on lui donne notre vie. On veut le suivre, on veut le servir, on veut être son disciple. On veut aller où ce qui s'en va, où ce qui a été. Jésus est parti au ciel. » puis il vit dans le ciel pour toute l'éternité. Puis tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur s'en vont avec lui pour vivre avec lui. Ils sont des représentants de Dieu sur la terre, temporairement, jusqu'au moment où il va venir nous prendre puis nous emmener avec lui. Puis il invite tout le monde. Puis s'il y a des gens qui sont ici ce matin, qui se disent, moi, ça, j'entends la parole, puis je crois en Jésus, je crois que je suis un pécheur, puis je veux accepter Jésus comme mon sauveur personnel, je vous donne l'occasion de le faire. C'est pas une affaire, on a tout passé par là, mais il faut le faire. C'est comme se marier, tu dis de ta bouche, oui, je la veux, je la marie, puis l'autre aussi dit ça, les deux qui ont prononcé l'engagement sont mariés. C'est de même que c'est un mariage. Mais accepter Jésus, c'est la même affaire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Veux-tu être sauvé? Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient accepter Jésus comme leur sauveur personnel? Je vais faire une prière avec vous puis vous donner l'occasion de l'accepter. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je crois que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne vos péchés, puis vous êtes maintenant sauvés. Marchez avec le Seigneur. Persévérez dans la foi. C'est la foi qui sauve, c'est pas nos bonnes œuvres. C'est la foi qui sauve. Gardez la foi en Jésus. Vivez avec le Seigneur, puis un jour, le mec qui vient nous chercher, on va se retrouver avec lui pour l'éternité.